L'invitée de la rédaction aujourd'hui est Aurélie Bécuve. Elle était l'invitée de Lionel Courteau. Il est question de l'opérette de Germaine Tillon, Le Fer Fugbar aux Enfers, qui raconte la détention de femmes dans le camp de concentration de Ravensbrück.
En octobre 1944, Germaine Tillon, résistante et ethnologue française, est déportée depuis un an à Ravensbrück. Elle choisit d'aider ses camarades en les entraînant dans la création d'une œuvre. Cachée au fond d'une caisse d'emballage, elle rédige une opérette revue consacrée à la vie au camp. Germaine Tillon écrit alors clandestinement Le Fer Fugbar aux Enfers, une opérette revue mondiale. Le rire étant la seule arme qui lui restait, elle décide alors de créer cette comédie loufoque avec une analyse lucide de l'univers concentrationnaire, ce qui fait la singularité de cette œuvre. L'œuvre la plus improbable, la plus déconcertante qui soit jamais parvenue jusqu'à nous depuis les camps de la mort. Et c'est Jean Lacouture qui le dit. Aurélie Bécuve, rebonjour, merci beaucoup. Alors, évidemment, rien qu'en annonçant le projet, on est déjà tous impressionnés par la démarche. Comment vous est venue cette envie de monter cette opérette si difficile?
Oui, si difficile, c'est le mot est juste. Effectivement, avec ma compagnie Brin de Folie, je fais principalement de l'opérette, qui est un style musical que j'adore. En tant que flûtiste, j'en ai joué beaucoup. Et je suis une grande fan de Jacques Offenbach, donc j'avoue que je développe beaucoup ça, soit avec des gros ouvrages comme Orphée aux Enfers, qu'on a déjà pu donner la saison dernière. Et puis j'ouvre au public la possibilité d'accéder à ce style musical en mettant en scène des opérettes en un acte. C'est-à-dire, ce sont des scénettes qui durent entre, pour certaines, 30 minutes et pour les plus longues, une heure. Et c'est une façon que j'ai d'apporter au public, en fait, ce style musical qui est malheureusement très peu donné et popularisé dans le mauvais sens du terme aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut remettre sur scène avec toute l'exigence que ça demande, parce que c'est très difficile d'interpréter l'opérette d'une façon juste. Et il y a une exigence vocale qui est évidente. Il y a une perception aussi d'un jeu de théâtre, puisque l'opérette est l'ancêtre de la comédie musicale. Donc on est quand même dans une pluridiscipline, voilà, théâtre, musique, mise en scène, costume, enfin voilà, tout ce qui fait un vrai spectacle. Et puis je réarrange la musique pour un petit effectif de 5 musiciens, de façon à pouvoir apporter ces spectacles, voilà, sur les places de village, dans les fermes, comme ça peut être, parce que j'adore ça, amener la musique aux gens, puisque les gens vont pas toujours à la musique. Et voilà, donc c'est vrai que l'opérette fait que, et puis mon métier de musicienne fait que je suis assez passionnée de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis le hasard m'a amenée à Germaine Tillon, à cette opérette, par une amie à moi, Simone Lang, qui un jour m'appelle en me disant: j'ai entendu sur France Culture une rediffusion d'une interview de Germaine Tillon qui parle de cette opérette revue qu'elle a écrite. Alors, me sachant assez curieuse de beaucoup de choses, voilà, elle m'a prêté le livret qu'elle avait acheté, que j'ai lu. Voilà, avec une émotion et une difficulté quand même. Vraiment, je me suis dit, bon, je l'ai lu d'une traite, je l'ai fermé, j'ai dit, ok, ça, je ferai rien avec ça, je peux pas, j'y arriverai pas, en fait. C'est trop lourd, c'est un sujet qui est... C'est pas n'importe quel sujet, et puis c'est pas, en plus c'est pas une opérette qui raconte ce qui s'est passé, ce sont les femmes qui ont écrit ça pendant qu'elles étaient incarcérées dans ce camp de concentration, qui était un camp à Ravensbrück que de femmes. Il y avait un petit camp d'hommes annexe, mais là on est vraiment dans un camp exclusivement de femmes. Et puis en fait, il m'a pas fallu plus d'une nuit pour que je me dise, je vais le reprendre, je vais relire, je vais réfléchir. Et puis, je dirais que 2 jours plus tard, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de cet ouvrage. Donc, effectivement, ça faisait aussi écho, mine de rien. Alors, de façon un peu insidieuse, je vous parlais d'Orphée aux Enfers qu'on a monté l'année dernière. Il se trouve que pourquoi elle a appelé ça le Fer Fugbar aux Enfers, c'est justement en référence à Orphée aux Enfers, qui lui-même est une parodie d'Orphée Eurydice de Gluck, donc un grand opéra baroque. Et donc, voilà, on est dans la parodie, une parodie quelque part. Maintenant, ça n'a pas de lien direct avec l'ouvrage d'Offenbach, à part le titre. Il y a en effet trois micro-références à l'ouvrage d'Offenbach. Une première qui est plutôt rythmique, une deuxième qui est... Mais ça, pour le savoir, j'ai lu, je crois, une bonne cinquantaine de livres pour essayer de m'informer sur beaucoup de choses, sur Germaine Tillon, sur la résistance, sur la Seconde Guerre, sur les camps, sur les déportations, sur... Voilà, donc je vis avec Germaine Tillon et les déportés depuis un peu plus d'un an.
Une femme admirable, si l'on
incroyable. Incroyable. Une femme, et puis oh, déjà une femme, à la base, assez incroyable, parce que très engagée, une ethnologue engagée, en Algérie beaucoup.
En Algérie après, oui.
Voilà, et avant, parce qu'avant de rentrer en France, quand la guerre a éclaté, elle était en Algérie, elle vivait là-bas. Et voilà, déjà une femme absolument incroyable. Et puis, cette capacité que je découvre dans cet ouvrage de pouvoir écrire une opérette alors qu'elles font peut-être 30 kilos tout mouillé, parce qu'on est quand même en octobre 44, donc on sait, on est quand même, la guerre est quand même presque finie, on va dire, enfin elle est même censée être finie, parce que l'armistice est déjà signé depuis un moment, le débarquement a eu lieu, et pourtant en octobre 44, elles sont encore enfermées dans ce camp, et elles n'ont absolument aucune perspective de libération. Pour elles vont finir leur jour là. D'autant que le camp a été libéré que le 30 avril 45, donc c'est quand même un certain nombre de mois après. Et puis, elles avaient quand même connaissance de beaucoup de choses au sein de ce camp, dont l'avancée des troupes russes qui ont découvert Auschwitz et qui a engendré que fin 44, tout début 45, Himmler a fait détruire les chambres à gaz à Auschwitz parce qu'il voulait, évidemment, serait dommage d'assumer les horreurs qu'il faisait. Et finalement, a décidé d'ouvrir des chambres à gaz à Ravensbrück pour finir le travail. Donc, un certain nombre de femmes juives ont pu se retrouver, malgré la libération d'Auschwitz, se retrouver finalement déportées à Ravensbrück pour être assassinées. Donc, ce qui est assez monstrueux, de toute façon, on traite d'un sujet assez monstrueux, et ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que ces femmes ont pu décider d'écrire une opérette. Et ce n'est pas anodin qu'elle ait appelé ça opérette. Alors, il se trouve que Germaine Tillon était une femme d'un milieu plutôt aisée, on peut dire ça pour l'époque. Donc, c'était une femme qui avait beaucoup de culture, qui avait une culture musicale très riche, et elle n'était pas la seule dans ce camp. Et donc finalement, ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, elles n'ont écrit que le livret. Il faut savoir qu'elles n'ont pas écrit de partition. Par contre, elles ont référencé toutes les paroles des chansons qu'elles ont souhaité chanter. Donc, à la fin du bouquin, moi, j'ai pu vous lire sur quelles chansons elles ont voulu chanter ces paroles qu'elles ont écrites, au-delà du texte parlé. Donc moi, j'ai fait tout un travail de recherche sur ce qu'étaient ces chansons. Donc, c'est des chansons des années 20-30 ou des références d'opéra ou d'opérette. Pour certaines, mais on reste principalement dans des chansons populaires. Et donc, j'ai fait un travail, pas très compliqué en soi, de chercher ces chansons. Et puis, j'ai décidé, par contre, de faire un travail différent en réarrangeant et en orchestrant ces chansons pour un orchestre de 11 musiciens. Pour pouvoir avoir un orchestre quasi complet qui accompagne ma troupe dans cette aventure assez fascinante. Voilà, et c'était pas évident, parce que j'ai quand même des chanteurs et des artistes qui me font confiance, parce que quand je leur ai parlé de ce projet, il y a à peine plus d'un an, j'avoue que je m'attendais à leur réaction. Hein. Je leur ai dit, écoutez, je ferai bien une petite parenthèse au Offenbach, mais alors ne m'en veuillez pas, on va pas partir chez Franz Lehár ou chez Reinaldo Hahn, on va partir dans les camps de concentration. Donc là, j'ai eu un petit blanc que je m'attendais pendant quelques secondes. Et puis, je leur ai dit, attendez, je comprends votre première réaction, mais laissez-moi vous expliquer. Voilà ce que j'ai découvert. Je pense que on a en main, parce que ce n'est pas moi. Hein, moi, enfin, bien sûr qu'ils vont. Sans eux, je ne fais rien. Alors, ils me ripostent souvent que sans moi, ils ne feraient rien non plus. Mais en tout cas, on est un groupe, on est un ensemble. Je crois beaucoup en les artistes qui travaillent avec moi. J'ai des artistes, bien sûr, professionnels, et l'orchestre est professionnel, ma structure est professionnelle, mais j'ai à cœur de faire intervenir des amateurs dans ma troupe. Donc, le chœur est amateur quand je fais des prestations d'opérette. Ce sont des professionnels qui tiennent le rôle des solistes, mais qui sont accompagnés par un chœur amateur. C'est une mixité à laquelle je tiens énormément. Et je me suis dit, voilà, ça fait qu'aussi, Ils m'ont fait assez vite confiance parce que justement, par le fait de toucher aussi des gens qui sont amateurs, ça veut dire que j'aborde des gens qui viennent de toutes horizons sociales et professionnelles, qui n'ont pas d'idées forcément très précises ou très arrêtées de ce que ça peut être, et donc qui ont aussi une curiosité. Alors quand les artistes professionnels, attention, hein, je ne crache pas sur mes collègues artistes professionnels, je suis moi-même du métier, ce serait malvenu de dire ça, et puis je le crois pas. En revanche, c'est vrai que ça leur a, je pense, fait moins peur. Parce qu'ils ont abordé un sujet qui peut, pour certains, j'ai découvert chez certains de mes chanteurs, alors ça aurait pu être le cas pour les professionnels bien sûr, mais quand une famille est déportée, donc ça a touché en fait des gens qui, et puis comme j'abordais en plus un thème assez, des extraits musicaux assez populaires finalement, ça a facilité le travail aussi avec eux, parce que là on n'est pas dans... On est dans des chansons, et les chansons sont plus, malgré tout plus faciles à apprendre. Il faut être honnête. Il y a beaucoup de chansons à l'unisson. Il y a des chansons que j'ai réarrangées pour un chœur à voix mixte. J'ai intégré les hommes de ma troupe parce que je ne voulais pas les exclure. Donc j'ai fait une demande particulière à l'association Germaine Tillon à Paris pour avoir leur autorisation de faire être présents les hommes, puisqu'ils y mettaient, ce que je peux comprendre, un petit frein au départ en me disant « mais il y avait des femmes dans ce camp ». Effectivement, il n'y avait pas d'hommes dans ce camp. Le seul homme qui pouvait être présent était le médecin qui venait quand il y pensait pour faire un tri ou une sélection supplémentaire. Des femmes malades qui espéraient tenir encore un peu le choc au revire, à l'infirmerie, plutôt que de mourir... Comme beaucoup de faim ou de fatigue. Et bref, tout ça pour dire que je pense qu'on aborde là une pépite. Pour moi, c'est une pépite. C'est une richesse extraordinaire de pouvoir toucher une œuvre écrite par des femmes qui vivaient l'enfer. Voilà. Et quelque part, ce qui donne sens et corps à toute mon équipe, c'est que, et j'ai trouvé ça assez fabuleux, parce qu'on a fait la création le 4 février au mémorial du camp de Rivesaltes. J'ai emmené toute ma troupe là, à Rivesaltes pour aller donner ce spectacle pour la première fois. Et ce que je trouve fascinant, c'est leur retour de scène où certaines m'ont dit tu vois, j'espère que de là où elle est, Marmotte est heureuse. De m'avoir vu interpréter son rôle, que j'espère avoir interprété de la façon la plus juste. Et là, je me suis dit, mais on a gagné. On a gagné parce que pour moi, c'est un ouvrage qui se doit d'être bien plus mis en avant. On parle de beaucoup de choses, évidemment. Et puis, c'est vrai que Germaine Tillon n'était pas une femme juive, faut être clair. On n'est pas là expressément dans une déportation de juifs. Il y avait beaucoup de femmes juives dans ce camp qui se sont retrouvées là pour la totalité d'entre elles. Hein. Elles se sont retrouvées là en attente d'être envoyées ailleurs. Mais toute Germaine Tillon, en fait, a été arrêtée, comme beaucoup d'autres, parce qu'elle était résistante. Elle a caché des familles juives. D'ailleurs, elle s'est délestée de sa propre carte d'identité, de la carte d'identité de sa maman, de celle de son père qui était décédé depuis plusieurs années, et celle de sa sœur qu'elle a donnée à une famille de juifs pour pouvoir. Et ils ont pu être tranquilles pour le reste, pendant toute la guerre. Ce sont des gens qui ont pu avoir la vie sauve grâce à ça, ce que je trouve absolument extraordinaire. Et elles se sont retrouvées avec de faux papiers, et puis voilà, à s'être engagées dans la résistance. Et elles se sont, fait comme beaucoup, dénoncées.
Dénoncées, ouais.
Par le curé du village, qui a été grassement payé pour entendre en confession des jeunes ne sachant pas quoi faire et les incitant à s'embarquer dans la résistance pour qu'ils obtiennent en fait le fait qu'ils s'engagent et qu'ils puissent les dénoncer et avoir un gentil petit salaire pour ces dénonciations. Donc, ce qui est assez immonde, mais c'est pas les pires, il n'était pas le seul, et voilà, malheureusement. Mais en tout cas, je pense qu'on est dans de la dénonciation aujourd'hui, bien sûr, de faits réels et atroces, mais il y a aussi un message essentiel que je souhaite passer par ça. Je ne veux pas culpabiliser les gens. C'est pas mon idée n'est pas de culpabiliser les gens. Mon idée, c'est Parce que voilà, c'est facile de dire ouais, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place à l'époque. On n'en sait rien, on n'en saura jamais rien. Face à la peur, face à la terreur, face à la volonté, de la menace familiale, à la peur pour nos enfants. Je suis moi-même maman, je me dis demain, je me retrouve comme ça, je fais quoi ? Enfin, c'est quand même pas évident. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, il y a un message très fort à faire passer par cet ouvrage. Un message de force, un message d'espoir incroyable. Ce que je veux dire, c'est... Voilà, la maman de Germaine Tillion s'est retrouvée un peu après, avait retrouvé sa fille dans ce camp. Et Germaine Tillion a perdu sa maman qui s'est fait assassiner dans les chambres à gaz en mars 1945. Donc en fait, à peine plus d'un mois avant que le camp soit libéré. Donc c'est quand même... et elle s'en est jamais remise. J'imagine qu'on ne se remet jamais réellement de la mort de sa maman. Mais dans des conditions comme ça, c'est terrifiant. Mais en tout cas, il y a un message d'espoir de se dire que même quand on est... limite mort déjà physiquement, moralement, qu'on a l'impression qu'en fait on est réduit à rien. Ces femmes n'étaient plus rien, comme dans tous les camps, c'était plus que des numéros. Et d'ailleurs c'est marrant parce que dans cette opérette, elle ne met que des surnoms, elle se donne des surnoms. Alors c'est drôle, on a quand même Lulu de Colmar, je me dis que c'est sympa. Et je sais qu'il y avait beaucoup d'Alsaciennes dans ce camp. Voilà, il y a des petites choses comme ça un peu drôles qui sont mises en avant. Et malgré tout, il n'y a pas leur prénom. On passe d'un numéro à une humanisation de la personne par un surnom. Pourquoi un surnom ? On donne souvent un surnom aux gens qu'on aime bien, ou à nos enfants, ou à nos grands-parents, ou à des gens qu'on affectionne particulièrement. Et pourtant, ces femmes ne se seraient jamais rencontrées si elles n'avaient pas toutes été embarquées et enfermées dans ce camp. Donc, il y a une richesse sociale, humaine, de rencontres. Et c'est ça que je veux traduire aussi. C'est la force de vivre, c'est le courage, ce courage qu'il faut avoir malgré tout. Je suis pas quelqu'un de très peureuse au quotidien. J'éduque ma fille beaucoup à avoir pas peur de grand chose à part des voitures et des inconnus. Mais en tout cas, ça éveille en moi depuis un an une force et une volonté de vie. Je me dis que ces femmes sont une référence incroyable. Et pourtant, je ne mets pas en avant un discours féministe quel qu'il soit parce que c'est pas pour moi, c'est pas le sujet. Mais malgré tout, ça reste quand même des femmes. Et on sait à quel point, quand même, physiologiquement, une femme est plus faible qu'un homme. Je veux dire, c'est un fait d'être sous-alimentée ou non alimentée, ou être victime de torture, ou de... Voilà, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas pour toutes les femmes facile à surmonter, pour les hommes non plus, mais voilà. Il y a des choses évidentes sur nos capacités à tenir ou pas, sans compter les femmes mamans, enceintes, qu'ont perdu leurs enfants ou qu'ont eu leurs enfants dans le camp, mais qu'on a assassiné leurs enfants. Enfin, elles vivaient quand même l'horreur, des choses vraiment terrifiantes. Et malgré tout, voilà, émerge de ça l'envie de rire, l'envie de vivre et en riant.
C'est fascinant de vous entendre en parler.
En nous donnant envie surtout d'assister à cela.
Le 30 avril 1945, oui. le camp de Ravensbrück était libéré.
Oui.
Et donc nous allons fêter ça cette année.
C'est ça.
Le 30 avril, au point d'eau. À Oswald, à 17h, donc on retrouve votre opérette et votre projet. D'autres dates après ?
Oui, alors on va le jouer, mais en version concert, un peu améliorée, et avec piano et pas orchestre, au Mémorial de la Shoah de Paris, le 18 juin. Donc voilà, j'aime aussi teinter certaines dates et certaines célébrations. Donc effectivement, le 30 avril, la libération du camp au point d'eau à Oswald. Le 18 juin, bien sûr, l'appel du 18 juin, je pense que je n'apprends rien à personne. Et puis, il se trouve qu'on intègre en fait une exposition de la musique dans les camps et le fait qu'effectivement, une grosse partie quand même de la communauté juive a pu passer par ce camp, ça a tout de suite parlé au Mémorial de la Shoah. Donc on y donne ce spectacle dans l'auditorium et qui, faute de place, ne peut pas faire... Je ne pourrais pas le donner avec la mise en scène qui est la mienne, les quelques décors que je peux faire, que j'ai pu faire. Mais ça sera une version un peu concert améliorée avec piano. Et puis on le donne le 1er juillet au Struthof, au camp du Struthof, à 20h ou 20h30. On verra en fonction du temps qu'il fait, n'est-ce pas, puisqu'on joue en extérieur. Donc j'espère que... Voilà, que le soleil viendra mettre sa lumière sur la mémoire de toutes ces femmes. Et puis ensuite, j'ai effectivement des tas d'autres dates à venir à la rentrée 23-24. Et puis, j'espère faire vivre ces femmes encore pour les deux prochaines années à venir, et avec toutes les commémorations.
Et bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, voilà. Évidemment.
En tout cas, je fais tout
pour. On sera là, évidemment, pour vous soutenir. On suit comment les informations sur...
Alors, effectivement, je me sers des réseaux sociaux. Du coup, c'est effectivement un moyen très facile. Donc, vous pouvez suivre les actions, les activités de Brin de Folie. Sur la page Facebook, bah, vous tapez Brin de Folie, B-R-I-N, plus loin, D-E, plus loin, Folie au singulier, F-O-L-I-E. Voilà, Brin de Folie qui reflète pour moi la folie que j'ai pour l'opérette et la fougue que me rendent bien les artistes qui travaillent avec moi et qui supportent ma passion, qui n'est pas toujours facile, puisque je l'ai fait crouler un peu sous les dates.
Le fer fugbar aux enfers,
oui.
Une opérette de Germaine Tillon, vraiment Aurélie. Félicitations,
bon bah merci.
Bravo,
merci,
c'est impressionnant et admirable. Merci,
merci.
Beaucoup,
merci.
À vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
C'était Aurélie Bécuve, l'invitée de la rédaction de Lionel Courtot, à propos de l'opérette de Germaine Tillon, Le Fer Fugbar aux Enfers. ⁇